Première partie. Ce héros très discret. Chapitre 1. L'organe phénix. J'avais 21 ans. J'étais en quatrième année de médecine. Ce matin-là, à l'hôpital, nous suivions le chef de service dans sa tournée des malades. Nous lui portions un grand respect. Il savait parler aux patients pour les rassurer et connaissait sur le bout des doigts toutes les subtilités des traitements chimiques et de leur dosage. Nous étions au chevet d'un homme hospitalisé la veille au soir à la suite de la découverte d'un pic inquiétant de cholestérol dans ses analyses de sang. Un fort traitement médicamenteux lui avait été administré, il en avait besoin. Nous nous préparions à sortir de la chambre, mais la consultation n'était pas terminée. Après les molécules, le médecin s'est immiscé dans la cuisine de son patient. Que mangeait-il? À quel rythme? Quels aliments choisissait-il et lesquels lui fallait-il désormais privilégier? Ce sont des choses que nous n'apprenions pas à l'université. Ces considérations nous semblaient d'ailleurs peu nobles au regard du métier que nous serions amenés à exercer. Aussitôt la porte franchie, j'ai posé cette question qui nous brûlait à tous les lèvres. Puisque l'efficacité des médicaments est prouvée et qu'ils feront certainement baisser son taux de cholestérol, pourquoi imposer à ce malade un régime alimentaire en sus? Par la suite, durant mes études, j'ai souvent posé cette même question. Aucun médecin ne m'a répondu clairement. Jamais. L'une de mes collègues, étudiante en médecine comme moi, avait fourni une réponse qui paraissait satisfaire tout le monde. C'est trop facile avec les médicaments. C'était une sorte de réminiscence du péché originel. Tu es malade, tu dois souffrir pour guérir, tu dois payer. Je suis de moins en moins de cet avis. Toute la médecine m'intéressait alors. Je savais déjà que je m'orienterais vers la recherche, raison pour laquelle je m'étais lancé dans ces études, mais j'étais démuni quant au choix de la spécialité qui me permettrait d'embrasser le champ le plus large possible de l'organisme au lieu de me focaliser sur un seul organe. J'avais la chance d'avoir un père médecin. Il m'a aidé à réfléchir à ce qui se rapprocherait le plus de la médecine interne et c'est sur l'hépato-gastro-entérologie, englobant le foie et le tube digestif, que je me suis tourné. Je reconnais que je voyais alors dans le tube digestif 1000 fois plus de perspectives que dans le foie, dont on ne savait pas grand-chose. Mais il était inclus dans la spécialisation. Est-ce un hasard de la vie? Mon diplôme de médecin en poche, continuant d'ambitionner la recherche, j'ai rejoint un laboratoire de l'INSERM pour préparer ma thèse de doctorat S Sciences. Je pensais y passer une année, j'y suis resté 3 ans. Le sujet que m'avait donné mon directeur de thèse, le professeur Bréchaud, était le foie. Plus précisément, les interactions entre le virus de l'hépatite C tout juste découvert et le métabolisme des lipides, autrement dit, les raisons pour lesquelles une infection par l'hépatite C entraîne une accumulation des graisses dans le foie. J'ai d'abord été surpris. Puis, au fur et à mesure que j'avançais dans mes investigations, je m'émerveillais. Un univers s'ouvrait à moi. En recevant mon PhD, je savais que je développerais un jour mes propres équipes de recherche dédiées à ce prodigieux mystère, le foie. C'est étrange, un foie. Voilà l'organe le plus volumineux et le plus lourd de notre organisme. Il pèse 1,5 kg. Pourtant, il est tellement discret que même les étudiants en médecine ont du mal à le palper. Regardez un foie de veau chez le boucher, et vous aurez une idée approximative de la forme et de la consistance de votre propre foie. Il est tout mou, donc effectivement difficile à détecter sous la peau. Situé dans l'abdomen, du côté droit, en majorité derrière les côtes avec une petite partie débordant en dessous d'elle, il ne se laisse pas facilement tâter. Vous en approchez en vous palpant le ventre à droite en bas des côtes. Vous ne sentez rien? C'est normal. Il n'a pas de nerfs, et ne réagit donc pas à la palpation. Aussi, quand on explique qu'on dénerve un foie de canard ou d'oie pour préparer du foie gras, c'est complètement faux. On ôte en fait les canaux qui lui permettent de produire la bile pour digérer. Et la bile est amère, raison pour laquelle le foie gras mal débiliarisé a franchement très mauvais goût. Donc, en plus d'être discret, le foie est calme et ne fait pas mal ou si peu. Par conséquent, on le délaisse. Cela n'a pas toujours été le cas. Pendant des millénaires et sous toutes les latitudes, cet organe a fasciné les humains qui voyaient en lui une mystérieuse source de force. Ils étaient aussi interloqués par la capacité unique qu'il a à se régénérer très rapidement, tel un super-héros. Lorsqu'il est abîmé ou blessé, il ne meurt pas, mais repousse, nous rapprochant ainsi de l'immortalité. De tous nos organes, il est bien le seul à avoir ce pouvoir magique d'auto-guérison d'un autre super-héros, Wolverine, lié à une régénération tissulaire incroyablement rapide qui lui permet de guérir très rapidement de ses blessures. En Chine, où la médecine traditionnelle l'appelle le général des armées, source du courage, la bile d'ours produite par le foie était et reste un remède de longue vie. Au Japon, les samouraïs en buvaient une rasade avant de partir au combat pour s'assurer l'invincibilité. Les Grecs ont érigé le foie en héros du mythe de Prométhée. Bienfaiteur de l'humanité, ce dernier leur avait donné le feu contre la volonté de Zeus. Furieux, Zeus punit Prométhée de façon bien plus maligne qu'en le tuant. Connaissant les propriétés exceptionnelles du foie qui est capable de repousser, il fit attacher le supplicié sur le mont Caucase. Chaque jour, un aigle venait lui dévorer le foie. Et chaque nuit, le foie se reconstituait, rendant son châtiment éternel. Les Hébreux n'étaient pas en reste. En hébreu, le foie se dit kaved, ce qui signifie littéralement « lourd », mais également « honneur ». Dans l'alphabet hébraïque, une valeur numérique est attribuée à chaque lettre. L'addition des lettres de kaved lui donne pour valeur 26. C'est également la valeur du tétragramme YHWH, Yahvé, qui est le nom de Dieu dans la Bible. Or, les mots qui ont la même valeur numérique sont supposés partager des qualités similaires. S'agit-il d'une coïncidence, ou bien cela représente-t-il la vraie puissance du foie? Au Moyen Âge, constatant que le foie est rouge, donc rempli de sang, il apparaissait comme une évidence qu'il servait à produire du sang, ce qui est d'ailleurs partiellement vrai chez le fœtus. Il était aussi considéré comme le siège de l'amour et de la passion. Le foie est donc la vie. Peut-être est-ce pour cette raison qu'en anglais, les mots « live » pour « vivre » et « liver » pour « foie » sont si proches. On ignore si les anciens Égyptiens se posaient cette question. Eux avaient découvert une autre vertu au foie, gastronomique celle-là. Et il s'agissait du foie des oies qui, afin de mener à bien leur grande migration du nord vers le sud, dans les terres chaudes, se gavent d'un maximum de nourriture. Ce gavage naturel entraîne une accumulation de graisse, donc d'énergie dans le foie, le fameux foie gras, un délice gustatif. Pendant leur migration, les volatiles consomment cette graisse pour ne pas avoir à atterrir et à s'alimenter. L'histoire n'a pas retenu le nom des premiers gaveurs d'oies, mais le fait est que les Égyptiens, à peu près en même temps que les Grecs, se sont mis à gaver artificiellement des oies, puis des canards d'élevage. C'est d'ailleurs du gavage des oies que provient le nom foie, dérivé du latin ficatum, qui a aussi donné le mot figue. Car pour gaver leurs oies et obtenir de gros foies bien gras, les Égyptiens avaient déjà compris qu'il leur fallait du sucre et non du gras. Leurs palmipèdes étaient nourris de figues. Nous utilisons aujourd'hui un produit tout aussi sucré, le maïs. Devinez ce qu'il advient au foie d'une oie que l'on cesse de gaver. Quelques semaines plus tard, il retrouve ses proportions d'origine et redevient normal, comme s'il ne s'était rien passé.